Cette semaine, j'avais un téléphone d'un jeune croyant et d'un nouveau chrétien qui grandit, qui commence à grandir. Et je lui souhaitais des vœux de 2009. Et je tournais dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Puis je lui souhaitais ça comme bon souhait pour 2009. Ça dit « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ ». Et en lui disant ça, croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'avait pas l'air à comprendre ce que je voulais lui dire. Et je réalise que je me rappelle souvent que notre jargon chrétien ne trouve pas toujours de la compréhension chez celui qui reçoit nos souhaits. Comment est-ce qu'on peut croître dans la connaissance? Comment est-ce qu'on peut croître dans la connaissance de Jésus, Jésus qui ne vit plus parmi nous? C'est à se poser la question. J'expliquais précédemment cette année à un ami inconverti que j'avais une relation personnelle avec Jésus plus réelle et plus intime que je pouvais en avoir une avec lui. Il m'a répondu que je devais en fumer du bon. J'ai dit, c'est vrai. J'ai une relation avec lui, c'est intime, c'est réel. J'entends aussi bien des gens, quand même, qui développent des relations personnelles avec des gens qui, par exemple, sur le web, et ils développent des relations très personnelles sans jamais les avoir rencontrés personnellement. Je me souviens même d'une demoiselle qui est venue ici, qu'on a baptisée ici, qui a rencontré sur le web un Japonais. Et elle s'est mariée et elle est retournée au Japon. Elle l'a rencontré sur le web. Et je m'imagine qu'avant de le connaître de façon conjugale, elle a dû avoir une relation assez personnelle avec cette personne-là pour vouloir y engager sa vie. Pourtant, elle ne lui parlait pas de façon, je dirais, directement. Je ne vais pas vous dire que c'est sur le web que vous allez pouvoir chatter avec Jésus, là. moi, je ne chatte pas sur le web, ni avec Jésus, ni avec grand monde, j'imagine. Mais je veux parler ce matin d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Et je réalise que cette notion d'entretenir une relation personnelle avec Jésus est quelquefois pas très évidente non plus parmi les chrétiens eux-mêmes. L'été passé, j'étais avec un frère et on était assis dans le patio, sur la table, et on partageait un breuvage. Et la personne m'a demandé, le chrétien m'a demandé, c'est quoi avoir une relation personnelle avec Jésus? Comment ça se développe, ça? Il y a quelques semaines, j'étais avec un jeune croyant de l'autre côté du comptoir de cuisine et il m'a posé la même question. C'est quoi ça, avoir une relation personnelle avec Jésus? Comment ça se développe? Et je me pose la question ce matin, est-ce que c'est vraiment important de développer une relation personnelle avec Jésus? Et qu'est-ce que c'est avoir une relation personnelle avec Jésus? Alors, je tourne dans ma Bible et je cherche l'expression « relation personnelle » dans ma concordance. Et savez-vous ce que je trouve? Rien. Ces deux mots-là n'existent pas, relation personnelle, dans la Bible. Mais ce que je trouve, par exemple, en regardant ma concordance, c'est que la Bible présente une grande importance de connaître Dieu, d'aimer Dieu, de faire confiance à Dieu, de servir Dieu, et ce Dieu-là est toujours un Dieu personnel. Jérémie, par exemple, nous dit dans chapitre 9, verset 24, que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Je lis dans les psaumes, le psaume 42, le psalmiste, fils de Corée, qui chante « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Et je vois le psalmiste qui recherche une relation avec ce Dieu vivant. Son âme a soif de lui, a soif d'une vraie personne, a soif de Dieu. Est-ce que c'est important de développer une relation personnelle avec Dieu? Certainement. Jésus, dans sa dernière prière, dans le jardin de Gethsémané, dans Jean chapitre 17, verset 3, il va définir la vie éternelle. Il va dire, c'est important, il va parler de la vie éternelle. Et il va la définir comme étant la vie éternelle, c'est, aidez-moi, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé. Et Jésus, celui qui l'a envoyé. Ça, c'est la vie éternelle. De connaître Dieu, de connaître Jésus lui-même, c'est une nécessité incontournable. Connaître Dieu va faire la différence entre la vie éternelle et la mort éternelle. Par conséquent, c'est très important de demander aux gens, connais-tu Dieu? Connais-tu Dieu? Dieu, pas seulement connais-tu des choses sur Dieu, mais connais-tu Dieu? Connais-tu Dieu lui-même? Peut-être, je peux te demander, connais-tu M. Harper, le premier ministre? Quelqu'un m'a dit ce matin qu'il était pépu. Qu'on n'était pas sûr. Mais en tout cas, connais-tu M. Harper? Est-ce que s'il venait à Québec, il est déjà venu, puis qu'il était dans la foule, est-ce qu'il te reconnaîtrait? Il te dit, « Hey, salut, comment ça va? » Est-ce qu'il te reconnaîtrait? Est-ce que s'il te voyait dans la foule, non seulement il te reconnaîtrait, il te dirait bonjour, mais il se dirigerait automatiquement vers toi, puis il dirait, « Hey, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie récemment? » Est-ce qu'il te rencontrerait comme ça, puis que vous prendriez du temps ensemble pour partager vos intérêts, pour partager vos nouvelles? Est-ce que vous développeriez un respect, un honneur mutuel? Bien, connaître Dieu, c'est la même chose finalement, et plus que connaître un ami. C'est développer une relation personnelle avec la personne. Connaître Dieu, c'est développer une relation personnelle avec Jésus. Avec Dieu, avec Jésus, son Fils unique. C'est lui qui nous a fait connaître Dieu. Jean chapitre 1, verset 18. Le connaître personnellement, c'est être capable d'avoir de l'ouverture l'un envers l'autre. C'est d'être capable d'être transparent l'un envers l'autre. Connaître personnellement, c'est être capable de partager ensemble respect, intérêt mutuel. Alors, une relation personnelle avec Dieu, ça se développe comme toute autre relation personnelle qu'on pourrait développer avec un ami ou même plus. Et le désir que j'ai ce matin, c'est de partager quelques marques d'une relation personnelle qui est significative avec Dieu. Je vais commencer ce matin, ça va prendre certainement un autre dimanche parce que je veux juste partager deux caractéristiques, deux marques d'une relation personnelle avec Dieu ce matin et on continuera certainement une autre fois. Mais d'abord, j'aimerais demander à Dieu sa grâce, qu'à travers l'enseignement de ce matin, je développe ce goût-là et cette responsabilité-là, cette anticipation de dire, Seigneur, en 2009, je veux que ça soit vrai ça, croître dans la grâce et dans la connaissance de Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur notre Dieu, merci encore ce matin de nous donner l'opportunité de regarder dans tes Écritures certains principes et en réalité regarder dans les Écritures ta personne. Afin, Seigneur, que ce matin nous puissions être encouragés dans notre discipline à te connaître, dans notre désir, dans notre anticipation de mieux te connaître en 2009. Afin, Seigneur, que nous puissions marcher, j'allais dire, main dans la main, à te servir Dieu, à faire avancer son royaume. Alors, Seigneur, dirige-nous dans ta parole ce matin. Parle à nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, de quitter ce matin avec ce désir-là, de marcher avec toi, de te connaître de mieux en mieux pour 2009. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Quelques marques, alors, d'une relation personnelle significative avec Dieu. Bien, je dirais d'abord qu'une relation personnelle avec Dieu, c'est une relation spirituelle. Peut-être qu'il faut que je définisse qu'est-ce que c'est pas en premier. Mais c'est une relation spirituelle. C'est une relation d'abord invisible. Je ne vois pas Dieu dans ma soupe. Je ne vois pas Dieu dans ma tasse de thé. C'est pas là que je vois Dieu. Dieu s'est manifesté de façon exceptionnelle, de façon visible à des personnes dans le passé. Oui, il s'est manifesté de façon visible à Moïse, à Jérémie et à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. On identifie des théophanies, des manifestations visibles de Dieu aux hommes. C'est arrivé de façon exceptionnelle. Mais c'est pas comme ça que je le vois. Dieu s'est manifesté de façon encore plus visible, de façon plus explicite en Jésus-Christ. Mais rencontrer personnellement Dieu aujourd'hui, ça ne veut pas dire de le contempler de mes yeux de chair. C'est une relation invisible. Jésus, avant de quitter, disait à un de ses apôtres, Thomas, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Parce qu'il a dit qu'il allait partir et il allait envoyer son esprit, de sorte qu'on ne verrait pas Dieu avec nos yeux naturels, nos yeux physiques. Dieu est esprit. Dieu est esprit omniprésent, omnipotent, et il peut se manifester, il peut se révéler à nous à un niveau qui est bien plus profond que simplement nos sens physiques. Jésus, il est maintenant glorifié et il nous a dit qu'il était toujours présent avec nous jusqu'à la fin du monde, qu'il était présent avec les croyants et qu'il allait communiquer avec les croyants tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais ce ne serait pas de façon avec les visuels, avec nos yeux physiques. Mais comment est-ce qu'on voit Dieu alors? Comment est-ce qu'on rencontre Dieu de façon spirituelle? Mais nous rencontrons Dieu, la Bible va dire, avec les yeux de notre compréhension. On a vu dans les dimanches précédents, en regardant Éphésiens chapitre 1, le verset 17, c'était la prière de Paul devant toutes les bénédictions de Dieu pour nous. Il priait dans Éphésiens 1, 17 que Dieu illumine les yeux de notre cœur pour qu'on puisse comprendre, qu'on puisse développer une relation avec Dieu, qu'il illumine les yeux de notre cœur. C'est ces yeux-là, c'est avec ces yeux-là que je vois Dieu, que je rencontre Dieu. Dieu parle à notre cœur, à mon cœur par son esprit, à travers mon intelligence, à travers la conscience. Mais il parle à mon cœur par son esprit. Et le Saint-Esprit illumine les yeux de mon cœur pour que je puisse rencontrer, pour que je puisse parler, pour que je puisse développer une relation personnelle avec Dieu. C'est d'abord une relation spirituelle qui est invisible. C'est une relation spirituelle aussi qui est inaudible. J'entends pas des voix, moi, quand j'ai une relation avec Dieu. J'entends pas des personnes qui me parlent là, de façon audible, ou même dans ma tête, je dirais. J'entends pas de voix me parler. J'aimerais bien ça, par exemple, je dirais. Entendre directement le son de la voix de Dieu. Il me semble que j'aimerais ça si Dieu me parlait. Des fois, on a ça dans nos sketchs. Là, soudainement, Dieu parle. Mais c'est en arrière. Il me semble que j'aimerais ça que Dieu me parle de même. Mais je regarde les Écritures, puis je vois que quand Dieu a parlé aux enfants d'Israël, quand il a donné les 10 commandements, puis qu'il a parlé, les enfants d'Israël, ils ont dit à Moïse, « Oh non, 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 laisse pas Dieu nous parler encore comme ça, c'est terrible. Parle-nous toi à sa place. » Parce que quand Dieu a parlé pour les 10 commandements, la montagne était fumante, ça tremblait, il y avait des bruits terribles et les gens avaient peur d'entendre la voix de Dieu. Même eux autres ont demandé que cette expérience terrifiante ne se reproduise pas. Alors c'est peut-être une bonne chose que Dieu ne me parle pas directement de façon audible. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu ne parle pas? Certainement pas. Dieu parle. Dieu parle dans un langage même qui est tout à fait compréhensible à ceux qui veulent l'entendre. Le psaume 19 nous dit ça, il dit que c'est un langage que tout le monde peut comprendre. Dieu parle dans un langage qui m'est compréhensible. Il parle d'abord, la Bible dit, par la nature, mais il me parle particulièrement à travers la sagesse de son livre, à travers la sagesse de la Bible, la parole de Dieu. Et en réalité, notre problème commun, c'est pas que Dieu soit silencieux, c'est pas le silence de Dieu notre problème dans notre relation avec Dieu, mais c'est souvent notre indisposition à accepter ce que lui nous a déjà dit, le contenu dont il nous a déjà parlé. De sorte que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il répétait une phrase souvent. Il disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Il disait, tu as des oreilles. Bien, c'est ta responsabilité d'entendre. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux et qu'il n'a pas voulu te parler. Le problème, c'est que des fois, on ne veut pas entendre ce que Dieu a à me dire. Et c'est pour ça que l'auteur des Hébreux, dans Hébreux chapitre 3, les versets 7 et 8, il nous rappelle qu'on a une responsabilité d'entendre. Et entendre en français comme en grec, ça a la notion de obéir. Écoute-moi donc, quand on disait ça aux enfants, ça ne voulait pas juste dire que le son rentre dans ton oreille, là. Ça voulait dire que le son rentre dans ton oreille, dans ta tête, dans ton cœur, puis que ça produit l'obéissance. Écoute-moi donc. Hébreu nous raconte, nous rappelle cette responsabilité d'entendre puis de se soumettre à sa parole. Hébreu 3, 7 dit, « Selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Aujourd'hui, Dieu veut te parler. Aujourd'hui, Dieu va te parler parce que la parole de Dieu est ouverte. Et ce que Dieu te demande, c'est que tu n'endurcisses pas ton cœur quand Dieu va parler à ton oreille et à ton cœur. Une relation personnelle avec Dieu, c'est une relation spirituelle, invisible, inaudible, mais tout à fait réelle. Et c'est une relation, d'ailleurs, qui est facile d'accès. Quand je parle de rencontrer Dieu, je n'ai pas de problème de lieu de rencontre. Si je parle à une personne et je dis « j'aimerais te rencontrer », habituellement, je vais ouvrir mon agenda et je vais dire « quel jour, quelle heure, quel endroit ». Parce que j'ai de la misère à rencontrer les gens, moi, par télépathie comme ça, ça ne marche pas. Avec des vraies personnes. Dieu, c'est une vraie personne. Mais avec des personnes humaines, quand je parle d'avoir une rencontre personnelle avec ces gens-là, j'ai besoin d'un lieu, d'un endroit, d'un moment précis. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Il y a une tellement plus grande facilité d'accès. Oui, c'est vrai, par exemple. On peut rencontrer Dieu à un moment précis, à une place précise. J'espère que quand vous êtes venu ce matin dans un bâtiment d'église, vous êtes venu pour rencontrer Dieu. Dieu vous a donné une adresse, un temps, un moment particulier où il a dit « Je désire te rencontrer ». Et vous êtes venu le rencontrer pour célébrer son nom en communauté, pour entendre sa parole, pour communier les uns avec les autres. Et ça, c'est très bien. On peut rencontrer Dieu dans un bâtiment d'église, comme on rencontre des amis dans un café ou dans un salon. Jacques, il nous dit dans son épître, Jacques chapitre 4, verset 8, il nous dit simplement, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Il n'a pas dit, « Tu as besoin d'aller dans un endroit particulier. » Il a dit, « Non, approche-toi de Dieu. » Puis il va s'approcher de toi. Il n'a pas parlé de bâtiment. Il n'a pas parlé de monter sur une haute montagne pour t'approcher de Dieu. Puis là, il va s'approcher de toi. Il n'a pas parlé d'aller dans un endroit mystique, dans une grotte, dans une retraite en quelque part pour t'isoler en quelque part, pour rencontrer Dieu en quelque part. Il a dit non, approche-toi de Dieu. n'importe où. Et il va s'approcher de toi. Jésus nous disait dans le sermon sur la montagne qu'en réalité, il voulait que Dieu nous rencontre dans notre cœur. Ou j'allais dire peut-être dans le salon de notre cœur. Dans cet endroit intime, dans cet endroit où on peut prendre du temps sans stress. Dieu veut me rencontrer dans le salon de mon cœur. Jésus disait dans le sermon sur la montagne, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, puis prie ton Dieu, ton Père. Et ton Père, qui est là dans le secret, te le rendra. » Ton Père est là dans le secret. Ton Père est là dans le secret de ton cœur. Quand tu veux entrer en relation avec Dieu, bien, prends, approche-toi de lui. Mets-toi à l'écart dans un sens. Ouvre le salon de ton cœur et va t'asseoir avec Dieu. Tu vas le rencontrer. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous dans le salon de ton cœur, dans le calme, dans l'humilité de notre cœur. Dieu va prendre la place qu'on lui offre. Pendant le temps de Noël, il y a un chant que j'aime beaucoup, que l'on chante, puis j'ai vérifié, puis ils vont le chanter cet après-midi à part ça. Alors, vous avez besoin d'être là. Mais ça part d'avoir de la place dans le cœur. Et il y a un couplet qui dit, « Dans ton cœur auras-tu place pour Jésus le seul sauveur. Il tourne vers toi sa face, ouvre-lui ton cœur. » Dans ton cœur auras-tu place pour Jésus, le roi des rois. Il se tourne vers toi sa face, il désire que tu lui ouvres ton cœur. Parce qu'il désire avoir une relation avec toi. Il désire te rencontrer. Alors, quelques marques d'une relation spirituelle, d'une relation avec Dieu. D'abord, c'est une relation spirituelle. Une relation qui se situe au niveau du cœur. Ouvert et approché de Dieu. Deuxièmement, c'est une relation qui est basée sur la révélation de Dieu à nous. Quand j'ai une relation avec Dieu, c'est pas juste mystique, sans lien. Ça a toujours la notion que Dieu veut me parler et Dieu s'est révélé à moi. Une relation personnelle avec Dieu, c'est basé sur la révélation de Dieu, sur la Bible. Quelqu'un qui n'a pas de contact avec la Bible, à lire la Bible, je doute très, très, très fortement qu'il a une relation avec Dieu. Il y a une relation psychologique, il y a une relation mystique, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une relation personnelle avec Dieu parce que Dieu s'est révélé dans les Écritures pour être capable d'illuminer nos cœurs pour qu'on base une relation avec lui. Dieu parle et Dieu s'est fait connaître. Si je veux connaître Dieu, j'ai besoin d'entendre Dieu et, bonne nouvelle, Dieu s'est fait connaître. Dieu a parlé. Je peux le connaître parce que lui-même s'est fait connaître. Dieu ne m'a pas laissé sans témoignage de ce qu'il est lui-même, de ce qu'il s'attend de moi. La Bible, c'est ce témoignage, nous donne ce témoignage qui nous fait connaître Dieu. Et on ne peut pas développer une relation personnelle avec Dieu sans se tourner vers sa parole. Oui, des gens me disent, la nature me parle de Dieu, c'est vrai. Les circonstances, quelquefois, me parlent de Dieu, c'est vrai. Mais ni la nature, ni les circonstances me disent comment être sauvé, comment être pardonné de mes péchés et comment développer une relation personnelle avec lui. La nature, les circonstances sont des lumières qui me disent, je suis là. J'existe, je suis puissant, je suis partout. Mais la nature et les circonstances ne sont pas suffisantes pour me développer une relation personnelle, intime avec Dieu. J'ai besoin des Écritures. La Bible, c'est le message divin qui a été communiqué par des personnes inspirées. Quelquefois, je parle de la Bible, que je dis aux gens qui doivent lire la Bible pour connaître Dieu, avoir une relation avec eux. Et ils me disent souvent, la Bible, ça a été écrit par des hommes. Alors, je ne veux pas lire ça, c'est écrit par des hommes comme toi. C'est vrai, c'est écrit par des hommes. Mais ça n'a pas été écrit par n'importe quelle personne. Et ça n'a pas amené n'importe quel message. Ces personnes-là sont des auteurs que Dieu a sélectionnés, que Dieu a inspirés et à qui Dieu a communiqué son message pour chacun de nous. Dieu s'est servi d'hommes de bonne crédibilité pour nous communiquer son message. Voyez-vous, quand la secrétaire du docteur X m'appelle pour dire « Tu as un rendez-vous avec le médecin mardi à 4h30 à tel endroit », c'est pourquoi je le crois. Je ne dis pas « c'est pas le docteur qui me parle ». Non, c'est la personne, c'est sa secrétaire, c'est la personne autorisée qui dit « Garde, tu vas rencontrer le médecin à telle heure, à tel endroit ». La parole de Dieu, c'est la même chose. C'est Dieu qui parle à nous à travers des secrétaires, si je peux dire. La Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Je ne vous ai pas donné le temps de tourner dans vos Bibles ce matin. Hein? Ça l'avance, je vous cite les versets. Puis je... Mais un autre beau texte, 2 Pierre, chapitre 1, 21. Pierre, il dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. C'est pas par une volonté humaine que Dieu a communiqué des prophéties aux hommes. C'est pas par une volonté humaine, mais il dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les êtres humains, ils n'ont pas dit ce qu'ils voulaient dire de la manière qu'ils voulaient dire quand ils voulaient, mais ils ont été poussés par Dieu, le Saint-Esprit, afin qu'ils nous communiquent le message qui venait de la part de Dieu, le message de Dieu. Par conséquent, une relation personnelle avec Dieu s'est basée sur la révélation de Dieu, de sa parole à nos cœurs. Alors j'ai besoin, si je veux développer une relation personnelle avec un être, avec un individu, j'ai besoin de passer du temps avec cette personne-là. J'ai besoin d'apprendre à la connaître. Comment je fais ça avec Dieu? J'ai besoin de passer du temps avec les Écritures. J'ai besoin de mettre du temps de côté. J'ai besoin de lire les Écritures. J'ai besoin de méditer la parole de Dieu. Mon besoin, en réalité, c'est pas de savoir comment je peux avoir une relation avec Dieu, mais plutôt d'y investir le temps nécessaire pour avoir une bonne relation avec Dieu, comme je le fais avec toute autre relation personnelle significative. Le psaume 46, verset 11. Le psalmiste dit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrête! Arrête toutes tes activités! » Bloque du temps et sache que je suis Dieu. Prends le temps de connaître que je suis Dieu. Prends le temps de connaître ma grandeur, ma puissance. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrête et laisse-moi te parler. La Bible est remplie de notes où Dieu parle, où Dieu me parle. Ça dit, ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est quand Dieu me parle. Dieu dit... L'Éternel dit, Dieu nous parle, mais on a besoin d'arrêter, puis de prendre, de pratiquer la lecture de la parole de Dieu pour apprendre à connaître Dieu de la même manière que quelqu'un, si vous regardez le football ces jours-ci, moi j'en fais pas de football, mais c'est pas juste à regarder le football à la TV que je vais devenir un athlète de football. Si je pratique pas, si je lance pas, si il y en a qui ça a des blessures, là, mais... Pour développer, j'ai besoin de pratiquer. Pour développer une relation personnelle avec Dieu, j'ai besoin de prendre du temps avec lui. J'ai besoin de le pratiquer, ça. De pratiquer à parler à Dieu. De pratiquer à lire Dieu. Comment je fais ça? Bien, comme je vous l'ai dit, d'abord, j'ai besoin, vous avez besoin de réserver, de protéger du temps particulier avec Dieu en ouvrant les Écritures. Vous avez besoin d'utiliser des outils de redevabilité. Des outils de redevabilité. Ça, ça veut dire pour moi, des fois, un dévotionnel ou ma liste de qu'est-ce que je vais lire pendant un an. Je me fais un but de qu'est-ce que je vais lire pendant un an. Puis là, je vais systématiquement suivre. Je suis en train de... J'ai un petit livre, c'est très simple. Ça parle de la Bible de façon chronologique. Puis à toutes les fois que je lis, je coche. Puis j'ai un endroit de redevabilité. J'ai une méditation quotidienne, puis si je n'ai pas lu ma méditation quotidienne d'hier, ben le jour d'après, ça me le dit. Ça me dit que c'est le 28, puis je suis ouvert, puis je suis rendu au 26. Fait que là, je dis, je vais reprendre. Mais ça m'aide. Est-ce que c'est absolument, j'ai besoin de... Oui, ça m'aide. Ça m'aide à être redevable. À dire, Seigneur, je vais passer du temps avec toi. À l'arrière, vous allez avoir des plans de lecture quotidiennes. C'est tellement bien d'avoir un outil de redevabilité. Peut-être que c'est bien que vous rencontriez quelqu'un. Quelqu'un à chaque semaine, par exemple. Avoir une rencontre de redevabilité. Partager votre foi avec quelqu'un. Je ne sais pas moi, il se convertisse. Prendre du temps avec lui. Un temps de redevabilité. Qu'est-ce que tu as lu? Voici qu'est-ce qu'on a lu. Qu'est-ce qu'on peut prier ensemble? Prenez un temps de redevabilité. Avec une autre personne avec laquelle vous allez dire, regarde, j'ai lu ça, ça m'a fait du bien. On le fait le dimanche soir. Tous les dimanches soirs, on a un temps ensemble en église, de prophétie, où on peut partager comment Dieu nous a parlé, comment Dieu nous a dirigés. Ayez des outils de redevabilité. Un cours biblique, ça aussi, c'est un autre outil de redevabilité. À chaque semaine, je vais avoir des choses à lire, des choses à comprendre, des choses à méditer dans ma tête pour être capable de le donner à d'autres. Excellent! Réserve, protège du temps, utilise des outils de redevabilité, médite sur tes lectures. Ça veut dire quoi, se méditer sur mes lectures? Ben, est-ce que j'ai un péché dans ce que je lis que je dois éviter? Est-ce qu'il y a une promesse dans ce que j'ai lu que je peux réclamer? Est-ce qu'il y a un commandement de Dieu que j'ai lu que je dois garder? Est-ce qu'il y a une bénédiction que Dieu a écrite là-dedans que je peux jouir? Est-ce qu'il y a un exemple d'un personnage que je viens de lire que c'est un bon exemple à suivre ou un mauvais exemple que je dois éviter? Est-ce qu'il y a un principe, est-ce qu'il y a un message que j'ai compris de qui est Dieu dans ce que j'ai lu? Est-ce que Dieu m'a donné un principe pour le problème, pour la situation que je vis aujourd'hui? Ça, c'est méditer. Pas juste lire, mais arrêter et dire, « Hey, qu'est-ce que j'ai à apprendre d'ici? » Et après ça, transformer en prière ce que tu as lu, ce que tu as compris. Et dire, « Aujourd'hui, Seigneur, par ta grâce, donne-moi l'occasion de pratiquer cet engagement-là que j'ai vu, ce commandement à suivre ou ce péché à éviter. Garde-moi du péché aujourd'hui, de ce péché-là que j'ai vu en particulier. » Développer une relation personnelle avec Dieu, c'est de développer une relation qui est spirituelle. C'est développer une relation qui est basée sur la révélation de Dieu, sur la parole de Dieu. C'est aussi une révélation qui doit être centrée sur une personne, sur la personne de Jésus. Jésus, c'est à travers lui que je peux connaître Dieu. C'est Jésus qui est le médiateur ultime pour rencontrer Dieu. On peut connaître Dieu, on peut avoir une relation avec lui parce que Dieu lui-même est venu vers nous. Il est venu sur notre terrain dans la personne de Jésus pour nous inviter à le rencontrer sur son terrain à lui. J'ai reçu d'un frère, d'une sœur, d'un couple de l'église, une belle carte de Noël. Et le frère écrivait, il dit, « Dieu avait fait l'homme semblable à lui. Il lui restait de se faire semblable à l'homme pour le ramener à lui. » J'ai aimé ça au bout. J'ai tiré ça. Je l'ai. Dieu a fait l'homme semblable à lui. Alors, il lui restait de se faire semblable à l'homme pour le ramener à Dieu. Ça, c'est Jésus-Christ. Je développe une relation avec Dieu à travers la personne de Jésus. Parce qu'en réalité, nos péchés avaient créé un abîme infranchissable entre Dieu et nous. Et c'est Jésus qui est venu pour être ce pont, pour être ce médiateur de paix, comme on a chanté tantôt, ce prince de la paix, pour réconcilier l'homme pécheur au Dieu juste et saint. Et par conséquent, Jésus est devenu le seul chemin vers Dieu. C'est lui qui l'a dit. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est le seul chemin vers Dieu. Nul ne peut avoir une vraie relation avec le Père, sinon à travers le Fils, Jésus. Et Jésus devient, pour le croyant, pain de vie. Et avoir une relation avec Jésus à travers les Écritures, ça devient aussi important que de manger le matin. Jésus a dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie. Je suis là pour vous nourrir, bien entendu, spirituellement. » Et il disait lui-même au diable, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il va vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus est pain de vie pour les croyants. Et voyez-vous, il est pain de vie. À travers lui, je développe une relation avec Dieu personnelle et intime à travers sa parole. Et je réalise qu'il est là. C'est jamais de son côté qu'il bloque le chemin, qu'il n'a pas le temps, qu'il est trop occupé pour entrer en relation avec moi. C'est toujours moi qui bloque le chemin, qui ne prend pas le temps avec lui, qui ne développe pas une relation plus intime avec lui. C'est toujours moi qui bloque. C'est jamais Jésus. Jésus, lui, il me dit qu'il se tient à la porte et qu'il frappe. C'est lui qui a fait le premier pas pour nous rencontrer. Et ce matin, je ne sais pas si, lorsque je parle de relation personnelle avec Dieu, si ça clique réalité ou ça clique quelque chose de tout à fait mystique. Mais le premier pas pour rencontrer une personne, c'est d'aller vers lui, de frapper à sa porte. Et c'est le premier pas pour faire connaissance. Pour développer une relation personnelle. Puis avec Jésus, c'est la même chose. Le premier pas pour développer une relation personnelle avec Dieu, une relation personnelle avec Jésus, c'est d'aller vers lui. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est déjà venu vers toi. Et Jésus, en réalité, il s'est dit, je me tiens à la porte. C'est le premier qui est venu frapper à ta porte. Parce que c'est le premier qui a le désir de te rencontrer, de développer une relation personnelle, de développer une relation intime avec toi. Il frappe à la porte de ton cœur et il dit, ouvre-moi ton cœur, je veux y entrer. Ça, c'est le premier pas. De faire connaissance. Jésus est-il entré dans ton cœur? As-tu reçu le salut qu'il t'offrait? Jésus dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix puis ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. On va prendre du temps ensemble. On va développer une relation personnelle ensemble. Jésus frappe à la porte de celui qui n'est pas encore converti. Mais Jésus frappe à la porte du converti aussi, jour après jour. Il est là. Il dit, je vais passer du temps avec toi. Ouvre-moi la porte de ton cœur. Donne-moi du temps qu'on puisse prier ensemble, qu'on puisse comprendre Dieu ensemble, que je puisse te donner mes promesses, que je puisse te donner l'énergie pour vivre pour moi. Ouvre la porte de ton cœur. Et ce matin, je vais vous souhaiter alors la même chose que j'ai souhaité à ce jeune croyant cette semaine. Croissez dans la grâce. Que Dieu vous donne en 2009 de croître dans la grâce, de croître dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de croître dans votre relation intime et personnelle avec Dieu. Ne prenez pas l'année 2009 pour acquise en ce qui concerne votre relation personnelle avec Dieu, mais cultivez-la. Cultivez-la de façon intentionnelle à travers des disciplines spirituelles. À travers l'étude de sa parole, à travers la prière, à travers une relation qui est spirituelle, à travers le fait que vous allez prendre l'habitude de vous approcher de Dieu, sachant qu'il lui-même va s'approcher de vous. Que Dieu vous donne de grandir dans sa grâce, dans sa connaissance en 2009. Oh Seigneur, ma joie encore ce matin, c'est de savoir que le fardeau est d'entrer en relation avec toi, c'est toi qui l'as porté en premier. C'est toi qui as traversé les cieux pour venir vers nous. Seigneur Jésus, c'est toi qui as porté mon péché. C'est toi qui es devenu maintenant la porte. Et si quelqu'un entre, il va être sauvé. Il va entrer, sortir, trouver des pâturages. Il va trouver une communion avec toi. Seigneur, c'est toi qui as fait tellement pour me donner l'opportunité de vivre une relation personnelle intime avec toi. Oh Seigneur. J'entends ta voix ce matin qui m'appelle encore à prendre du temps avec toi, à lire ta parole, à te prier, à méditer sur ce que l'on a lu. Oh Seigneur Dieu, je veux te prier que cette année 2009, dans ma vie comme dans celle de mes frères et de mes sœurs, soit caractérisée par la croissance. La croissance, pas nécessairement physique ou matérielle, mais une croissance en grâce, en communion avec toi. En connaissance personnelle de Dieu. Oh Seigneur, donne-moi cette soif de toi. Mon âme soupire après Dieu, après le Dieu vivant. Seigneur, donne-nous à chacun cette soif pendant 2009. Ainsi nous te connaîtrons. Non seulement nous expérimenterons dès à présent la vie éternelle, mais nous connaîtrons la joie, la paix, l'espérance que le royaume de Dieu nous offre. Et je veux te louer, Seigneur, pour cette année à venir, au nom de Jésus. Amen.